Vous êtes sur RTL. RTL Midi. Le 12h. Agnès Bonfillon, Pascal Pro.
Bonjour à tous et bienvenue dans RTL Midi. 2h30 d'information et d'opinion jusqu'à 14h30 et l'information jusqu'à 13h cette semaine. C'est avec vous à Agnès Bonfillon. Bonjour.
Bonjour Pascal. Bonjour à tous. La mèche, le détonateur 49.3. Dès l'annonce d'Elisabeth Borne, colère dans l'hémicycle hier, mais surtout dans la rue, avant une nouvelle journée de mobilisation nationale prévue jeudi par l'intersyndicale. Nombreuses actions partout en France avec un risque de radicalisation que cette fois les syndicats auront peut-être plus de mal à contenir. Face à cette crise sociale et politique, question, quel avenir pour le gouvernement désormais très fragilisé? Une nouvelle fois, tous les regards seront tournés vers les Républicains. Ce sont leurs voix lundi qui feront pencher la balance d'un côté ou de l'autre lors du vote de la motion de censure. Ils sont toujours très divisés en interne. À suivre également dans ce journal, après la Pologne, la Slovaquie décide de livrer des avions à l'Ukraine. Grosse colère du Kremlin. Les engins seront détruits, dit Moscou.
RTL toujours plus proche de vous dans moins de 10 minutes. RTL midi, un jour chez vous en France.
Tout près de Perpignan, des agriculteurs invoquent l'aide de leur saint patron Godéric. Demain, une procession religieuse aura lieu pour demander de la pluie. À midi 20, RTL midi, votre vie, réparateur, fragmenté ou de mauvaise qualité. Et vous, comment dormez-vous? Avez-vous toutes les données en main pour bien récupérer? La journée internationale du sommeil, c'est aujourd'hui. Et d'ailleurs, c'est notre question hein, sur rtl.fr concernant ce sommeil. Dormez-vous assez?
Je pense que tout le monde répondra non à cette question. Autant de sujets, évidemment, dont vous pourrez débattre à partir de 13h dans Les Auditeurs ont la parole. Bien sûr, on parlera du 49.3 et de ses conséquences.
Auparavant, un mot de la météo avec vous, Valérie Quintin. Bonjour.
Bonjour. Eh bien, écoutez, c'est pas trop mal pour l'instant. On va profiter des éclaircies qui nous restent.
Merci beaucoup et à tout à l'heure.
RTL Midi.
Le 49.3 déclenché hier pour faire passer la réforme des retraites fait figure de détonateur.
Oui, cela ajoute de la colère à la colère. Exemple, en Loire-Atlantique, le dépôt pétrolier de Donges était déjà bloqué depuis mercredi dernier. Mais depuis hier, les grévistes sont encore plus nombreux sur le site. Bonjour Mathieu Lopineau.
Bonjour.
Beaucoup plus de monde, Mathieu. C'est même devenu le lieu de ralliement dans le secteur.
Oui, effectivement, plus une seule goutte de carburant ne rentre ni ne sort de ce dépôt. Des grévistes hein, qui ont d'ailleurs empêché un pétrolier de charger du gazole, d'accoster sur le port de Donges. Le navire a été obligé de faire demi-tour. Depuis ce matin, effectivement, après l'annonce donc du 49.3, hier, le blocage eh bien, se renforce. Ce piquet de grève devient, devant ce dépôt, devenu le principal blocage du secteur.
Bah, ça a un poids stratégique pour le pétrole, le gasoil et tout ça. Si on arrive à faire une petite pénurie et tout, les gens, ça va interpeller les gens. Ils vont se dire à la pompe, ils vont se dire bah ouais, il va falloir que je fasse attention. C'était inévitable. À force de pas nous écouter, tout le monde a été pacifique. On a manifesté dans les grandes villes, on était nombreux, plus que la loi travail. Et au final, ils n'en tiennent pas compte, quoi, aucun résultat. Donc, passage en force. C'est pas bon pour l'avenir.
Et depuis ce matin, devant les grilles où des bottes de paille, des pneus brûlent, eh bien, les raffineurs ont été rejoints par des marins, par les portuaires, des cheminots, encore les salariés de la centrale électrique. Bref, un point de convergence désormais. Une intervention des CRS est d'ailleurs possible dans les prochaines heures pour débloquer ce dépôt pétrolier à Donges.
Mathieu Lopineau, en direct pour RTL.
Depuis hier soir, des mouvements de contestation spontanés partout dans le pays.
Avec certains rassemblements qui ont dégénéré. Hein. Ça a été le cas place de la Concorde à Paris, face à l'Assemblée nationale. Ce matin, d'autres actions se sont mises en place. Voyons lesquelles avec vous, Célestin Bougère. Faisons un petit tour du pays.
Et oui, avec un premier objectif, bloquer la circulation. Par exemple, à Rennes, où des manifestants ont installé des poubelles sur l'un des plus grands points d'accès de la ville. À Toulon, des manifestants ont envahi des voies ferrées. La circulation des trains a momentanément été interrompue. Du côté de Clermont-Ferrand, aucun bus ni tramway depuis ce matin. Les agents des transports urbains sont en grève. L'objectif est clair. Pour Anne, une syndicaliste de la CGT, il faut mettre le gouvernement au pied du mur.
Moi, j'aimerais bien qu'on arrive à bloquer tout s'arrête, que les poubelles s'accumulent, qu'il n'y ait plus d'essence, qu'il n'y ait plus de transport pour bloquer cette réforme, quoi.
Action en région parisienne également, Célestin.
Oui, également, on en parle depuis ce matin. Aux alentours de 8 heures, des manifestants ont envahi le périphérique. Des voitures totalement arrêtées au niveau des portes de Clignancourt, d'Italie et de Montreuil. Une action qui s'est ensuite dissipée, comme le raconte Louise, une manifestante.
On est reparti très tranquillement. Tout s'est très bien passé. Tout le monde était très discipliné. La détermination, elle est là. Donc là, les blocages vont se maintenir. Et c'est aussi notre première réponse à ce déni de démocratie hier.
Voilà, et les syndicats qui promettent d'autres actions de blocage dans les prochains jours.
Merci Célestin Bougère pour RTL.
Au total, hier soir, lors de ces rassemblements spontanés, 310 personnes ont été interpellées.
Invité de RTL ce matin, Gérald Darmanin a notamment dénoncé un des effigies brûlées à Dijon. Et le ministre de l'Intérieur prévient, pas question de laisser les choses dégénérer.
L'opposition, oui. Le bordel ou la bordélisation et la violence, non. Les places des villes et des villages, c'est pas des ZAD. Mon travail, c'est d'encadrer ces manifestations. Ce que n'acceptera pas le ministre de l'Intérieur et ce qui sera critique, c'est si ces manifestations sont spontanées, empêchent les circulations, empêchent les trains de rouler, empêchent l'électricité d'arriver dans des hôpitaux ou dans des villes. Bref, encore une fois, empêchent que la chienline soit au rendez-vous.
Gérald Darmanin, qui s'est entretenu avec les préfets d'ailleurs ce matin. À ce sujet, il répondait aux questions d'Amandine Bégaud.
Le ou les motions de censure doivent être déposées avant 15h20 cet après-midi, c'est précis.
Ah oui, reste à savoir si le gouvernement peut être renversé. Et nous voilà repartis dans le décompte des voix, Marie-Bénédicte Allaire.
Alors oui, effectivement, mais les règles sont plus contraignantes que pour un projet de loi, car seules les voix pour sont comptabilisées, celles des députés qui veulent faire tomber le gouvernement. Il en faut 287. À ce stade, il y aura deux motions de censure. Celle qui est présentée par Marine Le Pen, a priori, elle ne devrait pas réunir beaucoup plus que les voix du RN, soit 88, ce n'est pas suffisant. Et puis, celle du groupe indépendant Liotte, en comptant les députés Liotte, plus ceux de la NUPES qui vont voter pour, plus ceux du RN qui le feront aussi. Éventuellement, quelques députés non inscrits en plus. On arrive à 260 voix si tout le monde est bien là, puisqu'il n'y a pas de délégation de vote. Alors, pour que la motion soit adoptée, il faudrait 27 voix venant de LR, un peu moins de la moitié du groupe LR. Ce n'est pas l'hypothèse la plus probable, parce qu'il y a une différence entre vouloir voter contre le texte sur les retraites et vouloir faire tomber le gouvernement, ce qui ouvrirait une période de crise politique avec peut-être un retour aux urnes, je vais y arriver, et ça, ce serait très risqué pour les députés LR, ils le savent.
Marie-Bénédicte Allaire du service politique de RTL, et selon notre sondage Aristoluna, 71% des Français souhaitent que la motion de censure soit adoptée et que le gouvernement démissionne.
RTL Midi.
Dans le reste de l'actualité, dans l'Allier, trois gendarmes ont été grièvement blessés avant-hier dans l'explosion d'une maison. Nous vous en avons parlé. L'un d'entre eux se trouve toujours aujourd'hui dans un état très critique. Son pronostic vital reste engagé. Et puis à l'étranger, après la Pologne, la Slovaquie va à son tour livrer des avions de combat à l'Ukraine, des chasseurs MiG-29, des engins de conception soviétique, ce qui provoque la colère du Kremlin. La météo, Valérie Quintin, retour des orages ce soir.
Oui, ils sont en train de s'organiser dans le golfe de Gascogne. Alors, on va avoir des orages qui vont partir précisément du Pays Basque et d'autres qui sont présents en Espagne qui passeront la barrière pyrénéenne. Et tout ce petit monde remontera au cours de la soirée et de la nuit prochaine vers les Hauts-de-France, en passant par le centre ou encore par le bassin parisien. À l'avant de tout cela, dans l'Est, on peut quand même espérer un après-midi à peu près bien ensoleillé, avec malgré tout de l'instabilité près des Cévennes. Et puis à l'arrière, sur le nord-ouest, on a déjà quelques averses à l'heure qu'il est. Ce sera le cas une grande partie de l'après-midi. Quant aux températures, elles sont plutôt douces globalement. 15 degrés à Reims aujourd'hui, 16 à Nantes, à Paris et à Metz, 17 pour Lyon et Montauban et 18 degrés à Ajaccio.
Merci Valérie.
RTL Midi, un jour chez vous.
Et chaque jour, quasiment, nous vous parlons de la sécheresse.
Un an sans pluie, ou presque, le département des Pyrénées-Orientales est à sec. Les barrages sont vides. Les fleuves côtiers sont des rigoles ridicules. Bonjour Patrick Tégéro.
Bonjour Agnès, bonjour Pascal, bonjour à tous.
Une procession partira demain de la cathédrale de Perpignan pour invoquer Saint Godéric, saint patron des agriculteurs, invoqué pour faire cesser la sécheresse.
Oui, c'est une idée de Georges Puich, ce vigneron de Passa sur les contreforts des Pyrénées, a constaté lui aussi que les barrages sont à sec et que ces terres sont dures comme du béton. Il s'attend à une toute petite récolte, le raisin ne pouvant pas grossir si la plante ne trouve pas d'eau dans le sol. Il sait aussi que les maraîchers ont besoin d'eau, ainsi que toute l'industrie du tourisme. Et dans la famille de Georges Puich, traditionnellement, on priait Saint-Godéric. Alors, pourquoi pas ?
En taillant les vignes avec mes tailleurs qui sont musulmans, ils m'ont dit il faut aller prier.
Mais ça peut appeler à sourire ceux qui n'y croient pas après tout. Qu'est-ce que vous leur dites à cela ?
Ben, moi ça ne me fait pas sourire et mes tailleurs musulmans qui m'ont dit de prier, ça ne les faisait pas sourire non plus, c'était normal. C'est sûr qu'il ne nous reste que ça parce qu'on fait des tas de réunions agricoles pour trouver des solutions, mais vu qu'il n'y a pas du tout d'eau, il n'y a pas de solution.
Alors vous en remettez ?
Au ciel, pour faire pleuvoir.
Ça me rappelle le film Manon des Sources où on voit effectivement des agriculteurs au début du siècle en procession. Ce vigneron a donc contacté les autorités ecclésiastiques pour que l'on sorte les reliques du saint de la cathédrale Saint-Jean-Baptiste. Il a été bien reçu ?
Ah oui, parfaitement. Il a reçu un excellent accueil de la part de l'abbé Christophe Lefebvre, ravi de relancer une tradition qui n'avait pas été pratiquée depuis 150 ans. Par contre, entre le 11e et le 19e siècle, on dénombre 800 processions. Alors l'abbé Christophe Lefebvre a organisé la procession avec enthousiasme.
Nous avons choisi symboliquement eh bien, de demander aux agriculteurs d'aller porter le brancard jusque dans le lit de la tête, donc au milieu de la rivière, sachant qu'en ce moment il y a 20 cm d'eau dans le meilleur des cas. Pendant ce temps-là, nous chanterons les litanies de Saint-Gaudéric. Et puis ensuite, aura lieu un rituel de tradition visigothique, donc très ancien, qui s'appelle la bénédiction du territoire. Donc on bénit le territoire aux quatre points cardinaux avec une relique de la vraie croix qui sera aussi transportée dans la procession.
Et s'il pleut alors ?
J'espère en tout cas qu'il pleuvra juste après et non pas pendant. Et c'est Dieu qui décide.
Eh bien, la météo semble déjà vouloir exaucer les pénitents de Saint-Gaudéric, car il est prévu de la pluie en fin de journée, demain. Mais tout de même, il en faudra beaucoup pour revenir à un niveau de réserve convenable.
Valérie Quintin acquiesce, Patrick Tégéro. Merci beaucoup.
Merci. Les voix du Seigneur sont impénétrables. On va marquer une première pause dans ce 12-13 et on va parler évidemment du 49-3 qui a mis le feu aux poudres. À tout de suite.
RTL Midi. Pascal Pro, Agnès Bonfillon. RTL Midi. Pascal Pro et Agnès Bonfillon.
Quoi qu'il arrive, ça va faire des dégâts. On va pas en rester là. Le pays va pas s'arrêter, se dire aujourd'hui, ok, c'est passé, on retourne chez nous, on va travailler 2 ans de plus. Non, ça peut pas se passer comme ça. C'est pas acceptable.
Le 49-3 qui a mis le feu aux poudres dès hier soir. Plusieurs rassemblements, manifestations et parfois affrontements avec les forces de l'ordre. Les syndicats restent mobilisés. Bonjour Martial Liu.
Bonjour.
Mobiliser les syndicats, mais contrôlent-ils vraiment ce qui est en train de se passer sur le terrain ? Je vous propose d'abord d'écouter Sylvie, elle manifestait à Nantes hier soir.
Nous on a fait toutes les manifs, on a l'impression qu'il ne se passe rien. Et moi je suis vraiment pas violent du tout, mais aujourd'hui je me dis il faut qu'il arrive à quelque chose qui fasse réagir.
On sent bien que le mouvement se radicalise, Martial.
Alors, il y a deux choses. Il y a l'unité syndicale qui est maintenue, ça c'est important, avec à bord toujours les réformistes CFDT UNSA. Alors ça, on va dire que le 49-3 les a au moins aidés à avoir cette cohésion qui dure. Après, c'est vrai qu'on sent bien que c'est maintenant l'aile radicale qui est en train de prendre la main. Parce que l'image la plus symbolique, par exemple, hier soir sur les télévisions, si vous regardiez, vous aviez M. Rodriguez, figure des Gilets jaunes, qui était au milieu des manifestants de la Concorde. Et c'est ça qui est en train de se passer. C'est-à-dire que vous avez ce qu'on appelle la convergence des luttes, en langage syndical, des mouvements qui se rapprochent et qui vont être plus difficiles à gérer, évidemment.
Lycéens, collégiens, étudiants ne sont encore pas entrés quand même. Non, et la France n'a jamais été à l'arrêt.
Non, mais alors ça, c'est vrai. C'est-à-dire que c'est peut-être ça la nouvelle étape de ce qu'on va vivre là maintenant. C'est-à-dire que jusqu'ici, on va dire, quand je dis c'était l'aile modérée qui tenait à peu près les manifestations, c'est-à-dire que c'est la CFDT et l'UNSA qui arrivaient à contenir le mouvement et à persuader FO et CGT qu'il fallait un mouvement populaire. Donc, effectivement, Laurent Berger l'a dit sur notre antenne l'autre matin, c'est-à-dire qu'il a dit regardez, on a laissé les gens partir en vacances, ils ont pu prendre le train, même s'il y avait des cheminots en grève, il n'y a pas de station-service à sec. Bon, ben voilà.
Non, je rebondissais sur l'expression convergence des luttes que vous utilisez.
Oui, parce que c'est. Mais c'est ce qu'on est en train d'observer aujourd'hui, depuis hier. C'est-à-dire qu'on voit bien
c'est là qu'il y a peut-être discussion encore.
On va voir, on est aux prémices.
En tout cas, on entre dans une nouvelle phase du rapport de force ?
Ben oui, c'est ce que j'essaie de vous dire. C'est-à-dire qu'en gros, aujourd'hui, on est dans un rapport de force un peu particulier, puisque lundi, si les motions de censure ne sont pas votées, et c'est quand même, a priori, pour l'instant, l'hypothèse qui tient la corde, de fait, la réforme des retraites sera adopté, en tout cas légal. Mais vous aurez dans la rue des syndicalistes et des mouvements hors syndicats qui refuseront cet état de fait, c'est-à-dire cet état de loi. Donc là, on entre dans un nouveau rapport de force où vous n'êtes plus dans un combat, on va dire, traditionnel. Vous êtes dans la rue face au Parlement et face au gouvernement. C'est tout à fait différent.
Un mouvement autre que les syndicats, vous nous parlez des gilets jaunes ?
Oui, parce que le discours hier soir qu'on entendait, y compris chez des syndicalistes qui, jusqu'à maintenant, étaient pour un mouvement relativement modéré, c'était de dire « Regardez ce qui s'est passé, faisons le bilan du mouvement, on a été sérieux, on a tenu nos manifestations et on aboutit à un 49-3. » Les gilets jaunes étaient beaucoup moins nombreux que nous dans la rue, ils cassaient, il y avait de la violence et à la fin, ils ont obtenu ce qu'ils demandaient, c'est-à-dire le retrait à l'époque de la taxe carbone et 17 milliards d'aides différentes et variées pour la France qui était en lutte à ce moment-là. Donc voilà, le discours qui est en train de se tenir, c'est quand on est radicaux, on obtient des choses. Quand on est pacifiste, on se fait marcher dessus. Voilà. Et ce discours-là, il n'existait pas.
Et il est dangereux, ce discours.
Mais bien sûr qu'il est dangereux. Mais c'est pour vous dire qu'on a changé un tout petit peu le rapport de force. C'est-à-dire que ceux qui étaient modérés tenaient le mouvement jusqu'à maintenant. Il est possible que ce soit ceux qui sont plus radicaux qui l'emportent désormais.
Mais ça veut dire, Martial, qu'on peut craindre un embrasement ?
On voit en tout cas déjà que vous avez des mouvements sporadiques un peu moins tenus qui commencent à exister. On sait qu'il y a un congrès de la CGT à la fin du mois qui va aussi être celui du départ de Philippe Martinez. Et on sait que les durs de la CGT sont en train d'essayer de l'emporter. Donc on peut s'attendre, on le voit avec les éboueurs, mais également les dockers, les raffineries, les électriciens, les transports. Ce sont des sections des fédérations dures qui sont pour un mouvement et un bras de fer véritablement visibles et qui perturbent et qui mettent la France à l'arrêt, si ce sont eux qui prennent le lead, comme on dit, eh ben évidemment, on va avoir plus de perturbations qu'avant.
Ce qui est intéressant, c'est d'écouter ce que disent les gens. Ils disent tous la même chose. Ceux qui ne veulent pas, et ils sont nombreux quand même, 70% ne veulent pas de cette retraite. On n'est pas écouté. Le président Macron est aveugle. Il ne nous entend pas, etc. etc. En plus, des gens qui sont assez modérés, hein, j'entends bien. Et j'entendais M. Dussopt ce matin dire « Le 49-3 n'est pas un échec ». Et je me disais, comment peut-il, comme ministre, il y a 80% des gens qui disent ce matin « Le 49-3, on n'en veut pas ». Et vous avez un ministre de la République qui dit « Ce n'est pas un échec ».
Mais ça rappelle ce qu'avait
compliqué.
Dit, ça rappelle ce qu'avait dit Emmanuel Macron en allocution en disant « Ce n'est pas un échec, mais ça n'a pas marché ». On est un peu là-dedans. Quoi. C'est-à-dire que si ce n'est pas un échec, en tout cas, ça ne marche pas.
Merci beaucoup Martial You pour cet éclairage, bien évidemment.
On sera avec les auditeurs tout à l'heure et disons-le, il y a une forme d'inquiétude aussi pour nous tous parce qu'on voit bien le pays dans lequel l'état dans lequel il est.
Personne n'a envie d'aller vers la radicalité.
Bien sûr.
On le voit avec le sondage, on se dit que c'est peut-être la seule solution pour se faire entendre. Et ça, c'est dangereux, effectivement.
La pause, on va parler du sommeil. C'est la journée internationale du sommeil. Je pense qu'hier, il y en a qui auraient dû dormir, je vous le dis, toute la journée.
Mal dormi, après.
Ça aurait peut-être été mieux. Il est 12h18, la pause, à tout de suite.
Pascal Pro, Agnès Bonfillon. RTL Midi jusqu'à 13h. RTL Midi, votre vie.
Faire une grasse matinée le week-end, non. On doit garder un rythme, donc pas de grasse matinée, mais une courte sieste le week-end.
L'info, bien sûr, qui fait votre quotidien et quel quotidien, le sommeil, le jour, la nuit. La sieste, paraît-il, c'est le caviar du sommeil.
Alors, beaucoup d'idées reçues et de fausses croyances. Le sommeil qui est vital pour l'être humain. On a beaucoup de questions, évidemment, à poser à notre invité, Pascal Ogrizek. Bonjour à vous.
Bonjour.
Vous êtes médecin généraliste, spécialiste des troubles du sommeil. On le disait, effectivement, on a tous quelque chose à dire sur notre sommeil. Est-il plus compliqué à notre époque de bien dormir ?
Oh oui, certainement. D'abord parce que l'environnement a beaucoup changé. En particulier dans les villes, il y a beaucoup plus de lumière que, par exemple, quand on est isolé à la campagne, beaucoup plus de bruit. Et puis surtout, on est très très sollicité et notre mode de vie est beaucoup plus trépidant. Il faut être tout le temps performant.
Sollicité par les écrans ?
Sollicité par les écrans, ça c'est un problème terrible pour le sommeil, les écrans.
Est-ce qu'on a des statistiques générales? Est-ce qu'on sait, par exemple, en moyenne, combien les Français dorment par jour?
Oui, d'après, enfin, il y a eu des, d'après le baromètre Santé publique France, le temps de sommeil des Français a diminué d'au moins une heure en 30 ans. Et la moyenne, c'est 6h42 la semaine. Et
6h42, c'est pas mal. Mais hommes et femmes indifféremment, ou est-ce que les hommes ou les femmes dorment plus?
En principe, c'est pas la question de savoir s'ils dorment plus, mais les femmes ont plus souvent des troubles du sommeil que les hommes.
Pourquoi?
Bon, je pense qu'elles sont plus sujettes, C'est difficile de se prononcer. Je ne voudrais pas être taxé de...
Mais docteur, c'est vraiment... quand vous dites 6h42 en moyenne, Pascal dit « Oh, c'est bien !» Et moi, je dis « Ah non, c'est pas assez !» On a tous notre idée là-dessus.
Ben, ce qu'il faut savoir, c'est que le temps moyen dont on a besoin par nuit est différent suivant chaque personne et un petit peu génétiquement déterminé. C'est un peu comme la taille, il y a des grands, des petits, des moyens. On considère, d'après toutes les études, qu'il ne faut pas descendre au-dessous de 6 heures par nuit. Mais les gens qui n'ont besoin que de 6 heures de sommeil, ce sont les courts dormeurs. Et les longs dormeurs, ils ont besoin de 9 heures de sommeil, par exemple.
Les personnes âgées ne dorment plus, j'entends souvent cela, c'est vrai?
Le sommeil évolue avec l'âge et quand on vieillit, on fait moins de sommeil profond. Et puis aussi, quand on vieillit, on a plus de douleurs, on est moins actif, on a moins d'activité physique. Donc,
c'est pour ça qu'on dort moins bien. Est-ce qu'il faut faire une sieste? Est-ce que c'est essentiel?
Oui.
Alors, la sieste courte, oui.
C'est quoi,
la sieste courte, c'est plusieurs fois par jour, au moment où on en ressent le besoin, et tout le monde, environ toutes les deux heures, a des petites baisses de vigilance.
Des coups de pompe?
Des coups de pompe, des petites baisses de vigilance.
Donc, il faut faire plusieurs siestes par jour?
Voilà.
Combien de temps?
Des siestes courtes, 10 minutes, ça suffit. 10 minutes?
Ah bon?
C'est juste se poser...
Et la sieste de 40 minutes après déjeuner?
40 minutes, c'est un peu entre les deux, parce que c'est pas un cycle de sommeil entier. Un cycle de sommeil entier, c'est 1h30 à 2h. Mais si on fait une sieste longue, ça va se déduire du temps de sommeil de la nuit suivante. Donc, on risque de moins bien dormir la nuit d'après, sauf si on travaille de nuit et que tous les jours, on dort 1h30 en plus, parce qu'on récupère de sa nuit.
On rappelle, docteur, que le sommeil est vital donc pour l'être humain. Il peut engendrer, le manque de sommeil peut engendrer de gros soucis de santé.
Oui, c'est vrai. Il y a beaucoup d'études épidémiologiques, c'est-à-dire à grande échelle, qui ont montré que les gens qui dorment moins de 6 heures par nuit sont plus sujets aux maladies cardiovasculaires, au diabète et à l'obésité.
Est-il vrai que dormir avant minuit est plus réparateur qu'après?
Non, alors, c'est parce que c'est un vieux dicton qui dit que les heures avant minuit sont comptes doubles, parce que c'est dans la première partie de la nuit qu'on fait le sommeil le plus récupérateur. Non.
C'est pas vrai. Donc si on se couche tous les jours à 4h du matin, et est-il vrai que le plus important, c'est de se coucher tous les jours à la même heure?
Oui, ça c'est vrai que c'est bien d'avoir des horaires de sommeil réguliers.
Voilà, même si on se couche à 4h du matin tous les jours, mais 4h du matin, c'est faut le faire tous les jours.
Oui.
Faut pas se décaler. Donc par exemple, les matinaliers d'RTL qui vont se reposer ce week-end, faut qu'ils se lèvent quand même à 2h du matin pour pas changer leur rythme.
Non, parce que les pauvres, ils sont... les gens qui travaillent de nuit, ils sont en dette chronique de sommeil. Donc,
c'est Valérie.
Dès qu'ils peuvent récupérer, on leur conseille.
Valérie, vous vous êtes levée à quelle heure aujourd'hui?
Alors aujourd'hui, ça va, mais demain, c'est 3h.
3h du matin. Mmh. Et là, c'est changement de rythme.
Ah bah oui, parce que là, je rentre à 20h ce soir et je me relève à 3h demain
c'est
matin.
Ça qui est c'est ça qui est dur. Difficile à gérer.
Et quand vous vous levez à 3h, vous redormez quand après?
Vers 13h30, 14h dans ces eaux-là. Et je redors 3 heures.
Oui, c'est ça. Vous dormez par tranche.
Oui.
Vous ne dormez pas forcément
7
heures d'affilée, mais en plusieurs tranches. Et
hop, une petite consultation, ni vu ni connu.
Non, mais c'est un sujet. Le sommeil est un sujet passionnant. On pourrait vous garder pendant des heures parce que c'est un sujet qui passionne absolument toujours et tout le temps et tout le monde. On n'a même pas parlé des jeunes et des ados. Un ado s'adore beaucoup. Je pense aux parents qui ont des ados chez eux.
Ça dort plus
parce que ça grandit
à l'adolescence que quand ça a 10-12 ans.
Et ça dure, oui, ils dorment 15 heures, 16 heures parfois les ados. J'en connais quelques-uns en 16 ans.
Oui, mais c'est aussi parce qu'ils se couchent à des heures pas possibles. Ils restent sur leur portable souvent tard le soir.
Bon, bref, vous reviendrez, docteur. Oui. On a encore beaucoup de questions à vous poser. Merci infiniment, Pascal Ogrizek, d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes médecin généraliste et spécialiste des troubles du sommeil. Merci.
Et nous revenons avec l'info à 12h30, à tout de suite.
Jusqu'à 13h, RTL Midi. Pascal Pro, Agnès Bonfillon. RTL, s'informer ensemble.
Bonjour à tous si vous nous rejoignez. Merci de rester avec nous si vous étiez déjà à l'écoute de ce RTL Midi, il est 12h31.
RTL Midi. Le 12-30. Pascal Pro et Agnès Bonfillon.
Et on rattrape la minute perdue avec votre grande édition, Agnès.
La réforme des retraites aura débouché sur une crise politique. C'est ce qui restera dans les livres d'histoire. Au lendemain du déclenchement de l'article 49.3, beaucoup de questions sur les mouvements qui risquent désormais de se radicaliser partout en France, mais aussi quel avenir pour le gouvernement d'Elisabeth Borne. Dans l'actualité également, à l'instant, le verdict dans le procès de la mort de Sandra Adoué, battue à mort par son compagnon en mai 2015. Celui-ci vient d'être condamné à 30 ans de prison. On y revient dans un instant. Le Kremlin hausse le ton après la Pologne. La Slovaquie décide de livrer des avions à l'Ukraine. Ils seront détruits, affirme Moscou. Et puis votre rendez-vous culture, comme beaucoup d'entre vous qui êtes à l'écoute de RTL Midi. Elle vient du Nord, elle a été ouvrière d'usine, championne de gymnastique avant de devenir chanteuse. À 84 ans, Isabelle Aubray fait ses adieux à la scène. La question du jour, nous en parlions il y a un instant, la journée internationale du sommeil. Avez-vous le sentiment de manquer justement de sommeil ? Vous en parlerez tout à l'heure ou pas ?
Au 32-10, on parlera de tous ces sujets, bien évidemment, et on dialoguera ensemble jusqu'à 14h30.
La météo, ce sera à la fin du journal, mais déjà un petit indice, Valérie Quintin.
Eh ben, il fait beau des Alpes à la Méditerranée, c'est à peu près tôt. Pour les autres, on a quand même pas mal de nuages et les pluies arrivent.
RTL Midi.
Une matinée marquée par les actions de blocage partout en France, des barrages routiers à Rennes, à Bourges ou encore dans les Ardennes sur l'A34. Dans la capitale, les manifestants ont bloqué le périphérique pendant plus d'une heure. Et à Châlons en Champagne, nous retrouvons Samuel Goldschmidt. Bonjour Samuel.
Bonjour.
Vous êtes sur le rond-point de Lillette, intersyndical au programme ce matin avec les Gilets jaunes et opération blocage toujours en cours.
Oui, un barrage filtrant. Alors, il n'y a pas d'énormes bouchons, mais il y a eu des tensions assez régulièrement avec des automobilistes, des routiers ou des artisans.
Eh ben, dis à ton patron qu'il ne mette que 15.
19 à 25, tu pars. À 25, tu pars. Il est 19.
Oh, 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 oh.
5 minutes,
t'as dit. Tu vas pas écraser les gens.
Voilà, la CGT est là en majorité, mais avec l'intersyndicale.
C'était spontané. On a décidé ce matin de venir ici à ce rond-point-là.
Qu'est-ce qui a déclenché ça ?
Deux petits chiffres, le 49.3 entre autres, et puis la remise en cause du projet à 64 ans. C'est simple, hein, on n'en veut pas. Et puis on va pas lâcher, comme on dit, on lâche rien. Puis la semaine prochaine, on va remettre ça.
Et il y a aussi des représentants de partis, comme ici LFI, le rond-point comme amphithéâtre en somme.
Ça redevient un lieu où à la fois on trouve les syndicats, des partis politiques, et où on trouve aussi des gilets jaunes. Ça donne une force.
Gaëtan, par exemple, était déjà ici il y a 4 ans.
Ça fait 4 ans qu'en fait je manifeste depuis le mouvement des Gilets jaunes. Ben, en fait, depuis 4 ans, ben, en fait, à part de la répression et plus d'inflation, il n'y a rien qui a changé, ça a même empiré. C'est pour ça qu'on est encore là sur le terrain pour notre avenir, pour l'avenir des générations futures.
D'ailleurs, ici à Châlons-en-Champagne, les Gilets jaunes sont conviés et participent aux réunions intersyndicales depuis quelques semaines. Et pendant que je vous parle, le barrage est en train d'être levé.
Samuel Goldschmidt pour RTL à Châlons-en-Champagne. Sachez que ce matin, Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, s'est entretenu avec les préfets concernant la situation sur le terrain, justement.
Les Républicains se retrouvent une nouvelle fois au centre du jeu.
Et cette fois pour voter ou non ? La motion de censure, ce sera lundi. Là aussi, division à l'horizon, Marie Mollet.
Et oui, car encore une fois, il y a une fracture entre la direction de LR, qui appelle à ne voter aucune motion de censure pour ne pas rajouter du chaos au chaos, et une partie des députés opposés à la réforme, qui, eux, se réservent le droit d'examiner les motions et de les voter. L'état-major de la droite, qui voit donc une fois encore son autorité défiée, même si ce matin sur RTL, le patron du groupe LR, Olivier Marleix, attend de minimiser.
On est très clair. Le groupe s'est exprimé hier en disant qu'on ne s'associerait à aucune motion de censure. Enfin, je ne donne pas plus d'importance à tout ça. J'ai dit qu'il y a deux, trois amis de mon groupe qui m'ont dit qu'ils avaient l'intention de voter. C'est leur responsabilité.
Deux, trois députés, dit Olivier Marleix. Mais qui peut le croire désormais ? Lui qui assurait presque jusqu'à la dernière minute au gouvernement qu'il aurait une majorité. Le 49-3 est aussi un échec personnel pour lui et pour le patron des LR, Éric Ciotti. Ils ont tous deux directement négocié avec l'exécutif sans jamais réussir à convaincre massivement leur propre camp. Même sans vote, LR a étalé au grand jour ses divisions.
Vous restez avec nous, Marie Mollet, dans quelques instants, en compagnie de Thomas Després. Nous reviendrons durant notre focus sur la crise politique qui est en cours après ce 49-3.
RTL Midi.
À Douai, la cour d'assises vient de rendre son verdict dans l'affaire de la mort de Sandra, cette mère de famille de 41 ans, tuée en 2015 par son compagnon. Hossine Hammoudi vient d'être condamné à 30 ans de réclusion. Il évite donc de justesse la perpétuité qui avait été requise, Franck Hanson.
Oui, une peine à la hauteur de la gravité de ce drame pour les enfants et les proches de Sandra qui se sont effondrés en larmes à l'énoncé du verdict. L'accusé, Hossine Hammoudi, est resté figé dans son box, hochant la tête face à la présidente. Il est donc reconnu coupable de l'intégralité des faits qui lui sont reprochés, le viol et le meurtre, un acharnement qui a duré 5 heures ce 1er 2015 à Hazebrouck. Et Lisiane, la mère de la victime, Emma, sa sœur, ne cache donc pas leur soulagement.
On est satisfait. Ouais, je m'en remets, parce que de toute façon, bon, déjà 30 ans, c'est bien, puis on sait que de toute façon, il y a les barreaux non, pour longtemps et fera plus de mal.
Je pense qu'on va arrêter la liaison, parce que manifestement, elle n'est pas parfaite avec Franck Hanson, et on pourra peut-être le rejoindre à un autre moment de ce 12-13. Et on va enchaîner avec ce week-end. Cela fera un an que l'ex-rugbyman argentin Federico Aramburu a été tué en plein cœur de Paris.
Oui, souvenez-vous, après une bagarre qui a dégénéré, il a été touché par plusieurs balles. Et c'est une information RTL que vous nous révéliez dès ce matin, Thomas Proutot. Les deux hommes mis en examen pour assassinat étaient connus des services de renseignement français pour leur appartenance à l'ultra-droite.
Absolument, tous les deux fichés à la DGSI. Jusqu'ici, on ne le savait que pour l'un d'entre eux. Pourquoi c'est important ? Eh bien parce que les deux suspects placés en détention provisoire et entendus à plusieurs reprises par les juges d'instruction affirment que leur déchaînement de violence armée n'avait aucune racine politique. Ils affirment qu'ils ont réagi à une situation confuse où plusieurs altercations se sont succédées avec le rugbyman argentin, l'ex-rugbyman argentin. La fiche S témoigne au contraire d'un engagement radical avec risque de violence. En l'occurrence, ils ont tous deux été membres du GUD, un groupuscule d'extrême droite. Coutumier des opérations coup de poing. On peut ajouter à cela qu'une quinzaine d'armes a été retrouvée en perquisition. L'ancien militaire des forces spéciales françaises et son comparse, ancien étudiant en droit, avaient en outre l'interdiction de se voir suite à de précédentes violences aggravées. Ce n'est pas une simple bagarre de bar, c'est ce que martèle la famille de Federico Martin Aramburu. Une reconstitution sur le lieu des faits, sur le boulevard Saint-Germain, est annoncée pour septembre prochain.
Thomas Proutot, chef du service police-justice de RTL. Après l'explosion d'une maison à La Chapelle dans l'Allier mercredi, sachez que le pronostic vital d'un gendarme est toujours engagé. Alors nous parlons.
Après la Pologne, la Slovaquie décide de livrer des avions de combat à l'Ukraine.
Annonce faite ce matin, 13 MiG-29 seront livrés à Kiev. Sophie Jousselin. Oui, ce qui fait de la Slovaquie le deuxième pays membre de l'OTAN à offrir des avions de combat à l'Ukraine. 13 MiG-29, donc de conception soviétique, ils viennent s'ajouter aux 4 appareils annoncés hier par la Pologne, des avions que les pilotes ukrainiens connaissent bien et qu'ils pourront utiliser immédiatement. Depuis le début du conflit, Kiev réclame des avions de combat, mais espère mieux que ces vieux modèles de l'ère soviétique. Hier, le porte-parole de l'armée de l'air ukrainienne a déclaré avoir surtout besoin de F-16 américains pour faire la différence. Mais à Washington, la ligne officielle ne change pas. Livrer des avions de chasse n'est pas une option, a réaffirmé la Maison-Blanche.
Et on le disait, hein, la Russie a immédiatement réagi, Sophie ?
Oui, le porte-parole du Kremlin a dénoncé une implication de plus en plus grande des pays de l'OTAN dans le conflit ukrainien, tout en affirmant que ces livraisons ne changeraient rien à l'issue du conflit. Dmitri Peskov a conclu en expliquant que de toute façon, ces avions seraient détruits par les Russes.
Sophie Jousselin du service étranger de RTL, merci Sophie.
C'est pas très beau de nous faire du mal, monsieur Georges Rau, qui vient d'entrer dans ce studio. Quelle affiche pour les quarts de finale de la Ligue des Champions. Je rappelle que le Paris Saint-Germain a été éliminé.
Ah oui, qu'il n'y a aucune équipe
française. Effectivement.
Pourquoi en parler alors? Quel est l'intérêt de cette Ligue des Champions?
Parce que nous avons l'esprit ouvert.
De très beaux matchs, de très belles affiches. Les clubs italiens sont d'ailleurs en force avec trois représentants. Alors le tenant du titre, le Real Madrid, sera opposé à Chelsea. C'est le même quart de finale que l'an passé, mais Benzema et ses coéquipiers joueront cette fois-ci le match retour en Angleterre. Une autre énorme affiche, c'est Manchester City face au Bayern Munich. Il y a une confrontation 100% italienne. L'AC Milan face à Naples et enfin, Benfica face à l'Inter Milan. A noter que si les deux clubs milanais se qualifient, ils se retrouveront dans un derby incroyable en demi-finale. Et puis le seul club...
Il y a eu une finale un jour entre les deux Milan. Une finale de Ligue des Champions.
Il y a eu un Juve-Milan aussi, notamment, mais ils se sont déjà rencontrés en demi-finale. C'était en 2000. Il y a eu un quart de finale et une demi-finale en 2003 et 2005. Et puis, le seul club français, Nice, connaîtra à partir de 14h son adversaire en quart de finale de Ligue Europa Conférence.
Merci beaucoup Nicolas Georgerot. La météo, on est bien obligé de la faire. Et bon, c'est pas forcément de bonnes nouvelles. Non, mais c'est pas forcément de bonnes nouvelles. Quoique, parce qu'on disait qu'on manquait de pluie. Mais
très, très bien
on
amené.
Va être servi.
Mais
oui, c'est, voilà, c'est ça.
Mais c'est très
excusez-moi,
bon.
On va le refaire.
C'est très bon, en fait. La météo, c'est formidable, il va pleuvoir.
Oui, alors, des orages arrivent.
C'est pas le chaud, oui.
Des orages arrivent, c'est un peu copieux d'ailleurs sur la Vendée à l'heure qu'il est. Ça va toucher également la Charente-Maritime. Une première salve orageuse qui va remonter vers les Hauts-de-France. On en aura une seconde dans la soirée et la nuit prochaine qui partira des Pyrénées pour remonter encore une fois jusqu'au Hauts-de-France, en passant par le centre ou le bassin parisien. À l'arrière, Normandie et Bretagne vont garder quelques éclaircies entrecoupées d'averses. Et puis à l'avant, dans l'Est, eh ben, c'est plutôt beau, plutôt bien ensoleillé avec des vents assez forts. Ce sont des vents de secteur sud, d'où la douceur. 13 degrés à Brest cet après-midi, 15 à Abbeville, 16 à Paris et Nancy, 17 à Orléans, 18 à Ambérieu et Perpignan et 19 degrés à Tarbes. Merci beaucoup Valérie. Dans un instant,
dans une seconde,
nous parlons du 49-3, tiens donc.
Encore.
De la crise politique.
Avec Marie Mollet, à tout de suite.
Pascal Pro, Agnès Bonfillon. RTL Midi jusqu'à 13h. Agnès Bonfillon, Pascal Pro, RTL Midi.
Sur le fondement de l'article 49, alinéa 3 de la Constitution, j'engage la responsabilité de mon gouvernement sur l'ensemble du projet de loi communiqué à l'Assemblée nationale.
Forcément, cette image à l'Assemblée nationale hier après-midi restera après le 49-3 dégainé par la Première ministre. Peut-on parler de crise politique? En tout cas, les prochains jours vont être cruciaux. Avec nous pour en parler, Marie Mollet et Thomas Després. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
La motion de censure, Marie, peut-elle être adoptée tout d'abord?
Alors, ça paraît très peu probable à l'heure où l'on se parle. Si on reprend la calculatrice qui règne par les temps qui courent, il faudrait une trentaine de députés LR qui votent cette motion. 27 exactement. Et à ce moment précis, honnêtement, ça paraît assez fantaisiste. Y compris chez des députés LR qui s'apprêtaient à voter contre cette motion, ils sont pas du tout partants, en tout cas massivement, pour voter cette motion, soit parce qu'ils estiment qu'on peut pas être de droite et voter une motion de censure, parce qu'ils ont pas envie de voter une motion qui proviendrait des rangs de la gauche. Donc, en fait, ça paraît assez peu probable. La direction de LR dit 4-5 députés LR qui s'apprêteraient à voter cette motion de censure. Après, on verra bien. Je discutais avec un député de la majorité hier soir qui me disait, mais moi j'arrête les pronostics. J'arrête les pronostics parce que je me suis trompée sur toute la ligne. On était persuadé d'avoir une majorité. On était persuadé que les LR allaient voter cette réforme. Eh bien, en tout cas, ça n'a pas été le cas. Donc, nous verrons lundi.
Et si cette motion de censure était votée, était adoptée, quelles conséquences cela aurait-il, Thomas ?
Alors, on fait donc de la politique fiction, hein, parce que ce que vient de dire Marie est exact, il y a très peu de chances qu'elle le soit. Si elle était adoptée, dans ce cas-là, c'est automatique, hein, le gouvernement démissionne, Elisabeth Borne présente sa démission à Emmanuel Macron, et après, pour la suite, bah, c'est la grande inconnue, et il y aura un remaniement. Dans les faits, Emmanuel Macron a le droit de renommer exactement le même gouvernement. Hein. C'est possible, on imagine mal que ce soit le cas, bien sûr, si le gouvernement était battu lundi. Et en ce qui concerne la réforme des retraites, alors là, elle sera mise à la poubelle, hein, parce que le gouvernement engage sa responsabilité sur un texte, et ça veut dire que ce texte-là sera rejeté.
Le gouvernement Borne peut-il rester en place, Thomas ?
Dans l'état actuel des choses, ça semble très compromis. Alors, ça ne veut pas dire qu'il y aura un remaniement dans 3-4 jours, mais je peux vous dire que tous les conseillers ou les ministres avec lesquels on parle depuis hier font déjà des blagues entre eux en disant qu'ils sont en train de préparer leur carton. Alors, ça ne veut pas forcément dire, hein, que ça sera la semaine prochaine. On sait qu'Emmanuel Macron, il aime bien prendre son temps. Et puis la question aussi, c'est de savoir qui mettre à la place d'Elisabeth Borne, si jamais elle n'était pas reconduite, des ministres. Voilà, c'est maintenant toute une phase qui commence, et ça peut durer très longtemps. Hein. On sait qu'Emmanuel Macron, il est rarement pressé sur ce genre de choses.
Oui, parce que ce serait un vrai, vrai défi, hein, pour l'exécutif de devoir trouver un successeur à Elisabeth Borne. C'est une autre paire de manches là qui s'annonce.
Oui, effectivement. En fait, on se souvient d'ailleurs qu'Emmanuel Macron avait mis des semaines avant de choisir Elisabeth Borne. Et il avait d'ailleurs essuyé des refus d'ailleurs à l'époque. Donc, il y a cette question de la personnalité. Et puis, on peut se poser la question, est-ce que c'est vraiment une question de personnalité ? Est-ce que si on a une autre personne, mais qu'on a la même majorité, cette majorité, elle reste toujours introuvable ? Il y a, par exemple, quelqu'un de la majorité hier soir qui me disait, mais maintenant il faut qu'on réfléchisse à un accord de gouvernement avec la droite, c'est-à-dire se mettre d'accord sur un programme, nommer éventuellement un Premier ministre venu des rangs de la droite, parce que sinon, on va être face à ce chaos permanent pendant 4 ans. Donc, est-ce que c'est une question de personnalité ou bien de réfléchir à un accord de gouvernement ? Voilà, c'est
Marie, aujourd'hui, disons-le, le divorce, il est avec Emmanuel Macron. C'est lui qui cristallise toutes les rancœurs, les ressentiments et parfois, hélas, la haine, disons-le. On a même le sentiment que Mme Borne a été une marionnette, qu'elle a exécuté ce que lui avait demandé, à savoir le 49-3. Comment lui peut-il évoluer ?
Alors, je ne sais pas si c'est nécessairement Elisabeth Borne qui a été une marionnette. C'est effectivement la réforme d'Emmanuel Macron, c'est certain, c'était sa seule promesse de campagne. Mais la méthode qu'a appliquée Elisabeth Borne, c'était une méthode qui était très personnelle à la Première Ministre. Elle a poussé pour le compromis jusqu'au bout. Elle a effectivement tenté tout l'argument sur la justice, sur une réforme juste. Ça, c'est une méthode Borne. Donc, est-ce que c'est un échec de la méthode ou est-ce que c'est un échec d'Emmanuel Macron lui-même ? On est bien d'accord, hein, que Emmanuel Macron.
C'est un échec d'Emmanuel Macron par définition, parce qu'on a le sentiment, c'est ce que j'entends, c'est ce que les gens disent, il ne nous écoute pas, il nous méprise, il ne nous entend pas. Je n'entends que ça depuis un mois.
Oui, alors, très concrètement, Pascal, aujourd'hui, Emmanuel Macron, il ne va pas quitter l'Élysée. Elisabeth Borne l'a dit dans une réunion hier, d'ailleurs, au fur et à mesure de la journée, elle dit « j'accepte d'être un fusible ». La Ve République est faite ainsi. Le souci, peut-être, vous le dites, vient d'Emmanuel Macron. C'est vrai qu'on l'évoque beaucoup, il est très présent dans les cortèges.
Thomas, que peut-il faire ? Parce que j'ai bien conscience qu'il ne va pas quitter l'Élysée, mais il reste 4 ans. D'où ma question.
Eh bien, toute la question, c'est le fusible. Dans la Ve République, quand il y a un problème politique majeur...
Oui, mais le fusible, c'est pas tant Borne qui est attaqué que Emmanuel Macron qui est visé.
Mais il est évident qu'il va devoir réfléchir à un acte 2 déjà de ce deuxième quinquennat qui n'a commencé il n'y a même pas un an. C'est évident. Il va falloir réfléchir à s'associer avec les LR, peut-être aussi à faire preuve de davantage d'humilité dans sa relation avec les Français. Mais ça, ce sont des sujets dont on parle depuis 5 ans avec Emmanuel Macron.
Oui, et puis... ça, là, pardonnez-moi Thomas, ça passera plus parce que le « j'ai changé, j'ai compris », etc., après la séquence qu'on vient de vivre, ça va être compliqué de dire aux gens « je vais vous écouter maintenant ».
Mais là où la question est effectivement un peu délicate, c'est quand on pose cette question-là aux ministres, à certains ministres, en fait, on n'a pas de réponse. On n'a pas de réponse, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il faut faire ? Comment on relance un quinquennat où il y a effectivement 4 ans, 4 longues années à tenir ? En réalité, il y a une forme... les ministres sont eux-mêmes un peu interdits.
Merci beaucoup Marie Mollet et Thomas Després du service politique de RTL. C'est un sujet sur lequel vous reviendrez évidemment avec les auditeurs.
Parce que les auditeurs, évidemment, sont toujours d'excellents éditorialistes dans ces cas-là. La pause et on parle de culture.
Isabelle Aubray.
Ah, Isabelle Aubray. Et alors, avec sa chanson phare, Plus belle la vie. Non, c'est pas ça. Que c'est beau la vie, que voilà, c'est beau la vie. Que c'est beau,
la vie, c'est autre chose.
C'est beau la vie. Ça, on a besoin d'écouter cette chanson. Steven Bellery qui entre à l'instant. Elle est magnifique cette chanson. Je l'ai écoutée ce matin dans la matinale. 12h52.
Jusqu'à 13h. RTL Midi. Pascal Pro, Agnès Bonfillon.
Isabelle Aubray chantera à domicile, ce qui ajoutera grandement à son émotion.
Il y a le maire de Marquette qui est venu et qui m'a dit « Écoutez, voilà, on voudrait que votre dernière représentation, ce soit à Marquette. Et nous avons l'intention d'ouvrir une salle qui s'appellera la salle Isabelle Aubray. » Et ça a été très touchant pour moi parce qu'à 200 mètres, il y a la maison où j'ai grandi, l'école où je suis allée, à 1 kilomètre, disons. Il y a l'usine où j'ai travaillé, à la portée de mon cœur. Et je vais chanter tout ça avec, dans la salle, mes copines de classe. J'ai des copines d'usine qui vont être là. Mais c'est sûr que ça va être extrêmement bouleversant. Et il va falloir que je reste Isabelle Aubray. Et je serai la copine après.
Savions-nous d'ailleurs qu'un premier amour...
Isabelle Aubray, c'est aussi un destin hors norme, Steven.
Ouais, cinquième d'une fratrie de 11 enfants. On le disait, bobineuse à l'usine dès l'âge de 14 ans. Championne de France de gymnastique. Celle qui épousera le grand éditeur musical Gérard Meiss a aussi tutoyé la mort. Isabelle Aubray en a-t-elle peur aujourd'hui ?
Pas du tout, parce que j'ai failli mourir 3-4 fois. Bon, bien sûr, après l'accident, mais après une embolie pulmonaire, après une seconde chute du trapèze, après... Non, j'ai pas peur du tout. Et pourtant, je ne suis pas croyante.
C'est vrai qu'on se souvient de ce très grave accident en 1963 de voiture qui vous avait immobilisé pendant 2 années. Il y a eu cette chute de trapèze dans les répétitions du gala de l'Union des artistes. 2 années supplémentaires d'immobilisation.
Ça bouscule une vie. Ah, ça la rend extrêmement précieuse.
Est-ce que vous diriez que ces épreuves de la vie ont changé l'artiste que vous êtes ?
Bien évidemment. Et quand je chante C'est beau la vie, je ne la chante, c'est évident, pas du tout de la même manière que quand je me suis remise debout. Quand je me suis remise debout, c'était des mois, des années à me dire le matin, je pose un pied, je mets l'autre. Est-ce que je vais marcher aujourd'hui ? Et un jour, je marche.
Vous n'avez jamais douté ? Vous n'avez jamais eu peur de ne jamais remarcher, de ne jamais retrouver votre public ?
Ah non, pas du tout. Et quand il y a eu la menace, on ne savait pas si on allait garder ma jambe droite ou mon œil droit, enfin, etc. Et rien ne m'arrêtait, j'allais me renseigner. C'était pas un problème pour moi.
Un oiseau qui fait la roue sur un arbre déjà roux.
Magnifique, et Isabelle Aubray. Steven Bellery, elle est émouvante. Hein,
elle est très émouvante, ouais. On la retrouvera donc demain et dimanche à Marquette-les-Lille pour ses adieux.
Et puis une chanson emblématique qui est dans le patrimoine de la chanson française.
Cette chanson, ah bah, inoubliable.
Merci Steven, c'est un plaisir toujours d'écouter chaque jour en longueur des artistes grâce à vous et grâce à tous
partager.
Les journalistes du service culture de RTL. Il est 12h59, la pause, à tout de suite.
Votre avis compte.
Venez l'exprimer sur RTL au 3210.
50 centimes la minute.
Il est 13h02.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Dans une seconde, nous serons avec les auditeurs jusqu'à 14h30. Mais d'abord, Agnès, vous nous rappelez les principales infos à retenir du jour, le 49.3.
Oui, encore des barrages routiers à Rennes, à Bourges ou encore dans les Ardennes sur l'A34. La matinée a été marquée par des actions de blocage un peu partout en France. Dans la capitale, les manifestants ont bloqué le périphérique pendant plus d'une heure. À l'instant, le verdict dans le procès de la mort de Sandra Adoué, cette mère de famille battue à mort par son compagnon, c'était en 2015. Celui-ci vient d'être condamné à 30 ans de prison, Franck Hanson.
Oui, une peine à la hauteur de la gravité de ce drame pour les enfants et les proches de Sandra qui se sont effondrés en larmes à l'énoncé du verdict. L'accusé Hossein Hamoudi est resté figé dans son box, hochant la tête face à la présidente. Il est donc reconnu coupable de l'intégralité des faits qui lui étaient reprochés, le viol et le meurtre. Un acharnement qui a duré 5 heures ce 1er mai 2015 à Hazebrouck. Et Lisiane, la mère de la victime et sa sœur Maëva, ne cachent pas leur soulagement.
On est satisfait. Ouais, un soulagement quand même, parce que de toute façon, bon, déjà 30 ans c'est bien, puis on sait que de toute façon, il est à les barreaux non, pour longtemps, et il fera plus de mal à personne, parce que là, de toute façon, c'est quelqu'un de très dangereux, on sait qu'il fera plus de mal.
C'était mérité de toute façon pour tout ce qu'il a commis au nom de ma sœur, au nom des autres. On a obtenu ce qu'on voulait et tout le monde a très bien fait son travail.
Et on apprend qu'Ossine Hamoudi a décidé de faire appel de cette décision. Il y aura donc une nouvelle épreuve pour la famille de Sandra qui restait digne et soudée durant ce procès. L'accusé général leur avait présenté ses excuses après tous les errements judiciaires qui ont émaillé cette affaire.
Franck Hanson aux assises de Douai pour RTL. À l'étranger, après la Pologne, la Slovaquie décide de livrer des avions à l'Ukraine. 13 MiG-29, ils seront détruits, répond Moscou. La météo. Vous nous le disiez, hein, Valérie, ça tourne à l'orage dès ce soir.
Oui, dans le courant de l'après-midi même, puisqu'on a déjà une première salve orageuse qui va aborder la Vendée, la Charente-Maritime et remonter vers les Hauts-de-France. Et puis ce soir, à nouveau, ça va recommencer à claquer entre les Pyrénées et les Hauts-de-France. Des orages qui passeront par le centre ou encore par la région parisienne. À l'arrière, Normandie, Bretagne vont jongler entre les averses et les éclaircies. Puis à l'avant, dans l'Est, ce sera une journée encore assez bien ensoleillée. On aura toutefois de l'instabilité près des Cévennes avec des pluies localement soutenues d'ailleurs en montagne. Et on ajoute à cela du vent. Un vent assez fort dans le midi, toujours dans le couloir rhodanien, mais également en Corse. Les températures cet après-midi, elles sont douces. 14 degrés attendus à Cherbourg, 15 à Lille, 16 à Paris, 17 à Tours, 18 à Marseille, 19 degrés pour Strasbourg et 20 degrés à Grenoble et à Biarritz.
Et temps pluvieux tout le week-end ?
Alors oui, demain on aura encore pas mal d'orages, pareil dans le même circuit. Hein. Ça va partir des côtes aquitaines pour remonter vers les Hauts-de-France. Pour les autres, un panel de gros nuages, d'éclaircies, de quelques averses, des éclaircies toujours plus vaillantes sur les régions du flanc est jusqu'à la Corse. Les températures seront stables, encore assez douces, 12 à 18 degrés l'après-midi. Et puis dimanche, les orages vont eux se décaler un peu à peu vers l'est. On va retrouver des éclaircies à l'arrière et on garde donc cette douceur pour la journée de dimanche avec 15 degrés de moyenne pour la moitié nord et 17 pour la moitié sud.
Merci beaucoup Valérie Quintin.
Merci Virginie, on vous retrouve Valérie.
Ouais, allez-y.
Merci Valérie.
Merci
on
Charlotte.
On vous retrouve vraiment. Demain matin avec... Oui. Et alors pas qu'à la météo, je le dis à chaque fois.
Oui, c'est vrai. Demain, je vais parler un peu de musique demain.
Les Who, vous m'avez dit.
Les Who.
Bon,
oui.
Bah, ça sera bien. On vous écoutera. À quelle heure ?
6h15, les Who.
6h15. Non, je me réveillerai pour ça. merci Agnès, c'était un plaisir de traverser cette semaine avec vous. La semaine prochaine, vous serez à l'antenne. Céline revient. Vous serez à 18h, je crois.
Exactement.
Eh bien, nous vous écouterons également. Merci à Arnaud Mulpa qui était à la rédaction en chef.
Non, il est en RTT, mais c'est pas grave, il nous écoute également. C'était Pierrick Bonin et Pierre Collat aujourd'hui.
Exactement, Pierrick Bonin, mais merci à Arnaud Mulpa pour toute la semaine, bien voilà. Sûr, c'est ce que je voulais dire.
Pour l'ensemble de son œuvre.
L'ensemble de son œuvre, Pierrick Bonin, bien sûr. 13h06, on part avec les auditeurs.